franceinter.fr.
178. Encore un. Encore un petit chouïa. Parfait.
Bonjour à tous. C'est l'une des grandes richesses de notre pays. Notre sous-sol regorge de trésors archéologiques. Mais cette richesse peut aussi être une contrainte, car depuis 2001, une loi oblige tout promoteur, qu'il soit public ou privé, qu'il construise un bâtiment d'habitation ou bien une autoroute, à laisser son chantier aux mains des archéologues avant de lancer ses tractopelles, en tout cas lorsque le site en vaut la peine. C'est ce que l'on appelle les fouilles préventives. Le principe est simple, il s'agit tout simplement de sauver les possibles vestiges du bétonnage. En 2003, cette loi a été complétée par un ajout qui fait aujourd'hui de ce terrain archéologique un champ de mine. Car les sociétés privées spécialisées dans l'archéologie, et elles sont nombreuses, peuvent concourir avec l'opérateur public, l'INRAP, l'Institut de Recherches Archéologiques Préventives, sur ce marché des fouilles. Lorsque le marché était en plein essor, notamment grâce aux grands travaux du type ligne TGV, la cohabitation était à peu près pacifique. Mais aujourd'hui, les clients potentiels sont plus rares. Il faut donc se battre pour décrocher les contrats. Pour certains, seul un organisme scientifique public peut garantir la qualité de ce travail de fouille préventive et aussi résister aux pressions des promoteurs qui n'attendent qu'une chose, évidemment, voir les archéologues plier bagages pour enfin lancer leur chantier. Pour éclaircir cette situation, une grande loi sur le patrimoine sera bientôt présentée au Parlement avec son volet archéologie. À une semaine des traditionnelles journées du patrimoine, Alain Passerelle nous invite à le suivre sur un premier chantier. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Lyon, où une équipe d'archéologues finit la mise au jour de plusieurs sarcophages. Archéologie, le grand marché des fouilles.
Interception, le magazine de la rédaction.
Qu'est-ce que tu vois là, Tony, pour la mise au jour ?
À l'intérieur, il y a de la terre, il y a un squelette en dessous. Donc voilà, donc là, ouais. Donc là, le but, on va photographier le couvercle, nettoyer. Et puis après, ma collègue ou mon collègue, anthropologue, va fouiller la cuve, enlever la terre et découvrir en fait le squelette. Donc probablement un squelette d'enfant par rapport à la taille.
Ce que vous cherchiez, vous, c'est une inscription.
Voilà, parce que tous ces blocs, en fait, ce sont des remplois. Parce qu'ici, en fait, en ce secteur de Lyon, les Lucs du Nom, on était dans une, on va dire, dans un secteur à vocation funéraire, donc avec des nécropoles et surtout des mausolées. Donc, ce sont des monuments ostentatoires de riches, donc qui employaient beaucoup de blocs. Et puis au 4e siècle, c'est une période de transition dans le monde romain et puis à Lyon. On remploie, c'est une période de remploi, de recyclage, on remploie les blocs des anciens monuments. Et donc, sur ces monuments, il y avait des inscriptions qui mentionnaient des épitaphes. Et ça, c'est ce qu'on recherche parce qu'elle nous touche plus, l'inscription. Et puis, ça nous permet aussi de connaître les Lyonnais de l'époque. Ici, on en a trouvé quatre. Donc, on a trouvé une inscription en place, donc une épitaphe. C'était une certaine Coelia Euphraxès, donc une fille d'origine grecque. Donc on a retrouvé son corps, donc c'est une jeune fille qui devait avoir entre 15 et 20 ans. Et on a retrouvé son inscription avec un décor, etc. Aujourd'hui elle est au musée. Donc c'est une belle pièce, c'est une pièce unique, puisqu'au 4e siècle on a très peu d'inscriptions à Testalion. Donc voilà, donc on a un spécialiste qui a étudié la question. Et puis on a trouvé d'autres blocs plus épars, mais qui recollent. Et c'est un puzzle. Et en fait ça appartenait à une inscription d'un mausolée. Donc donc là il y a des spécialistes qui travaillent dessus, donc on verra plus tard. Et donc voilà, c'est vrai que nous on aimerait avoir une autre inscription un peu plus complète, donc, mais bon, on verra, il nous reste celle-ci à voir.
Cela fait plusieurs semaines que l'équipe de 6 ou 7 personnes de la société privée EVA travaille sur un terrain qui sera occupé dans quelques mois par un immeuble d'habitation. Le délégué régional d'EVA, Jean-Claude Dozanne, supervise les opérations.
Bonjour.
D'accord, le chantier est là.
Voilà. Ouais. Alors là, effectivement, on est dans l'avant-dernier jour de fouille. Hein. On n'empêche que déjà visuellement, parle encore. Hein. Ouais. D'un point de vue anthropologique, c'est un site qu'on n'avait pas trouvé sur la capitale des Gaules depuis 35 ans. Quoi.
Ah oui. Voilà.
On a donc du sarcophage avec des matériaux en remploi. Hein. C'est des mausolées alentours qui ont été démontés au IVe siècle. Et tout ce que vous voyez là, ce sont des morceaux de monuments funéraires qui étaient antérieurs, évidemment, à cette fouille et qui ont été repris pour les utiliser comme sarcophage.
D'accord, voilà. On va avancer un peu.
Alors vous avez du sarcophage, vous avez aussi de la tombe en pleine terre,
oui.
Soit bordée avec des petits cailloux, des blocs pour les matérialiser ou border le défunt. On a aussi quelques incinérations et on a aussi des amphores en pleine terre, donc des amphores vinaires hein, qui viennent soit d'Afrique, soit d'Espagne, dans lesquelles, c'était une coutume funéraire à l'époque romaine, on met les morts-nés ou les jeunes enfants, très jeunes enfants, dans l'amphore. Voilà, ça sert de contenant funéraire.
Ils sont arrivés comment d'Espagne ou d'ailleurs hein, tout ça.
Ah, ça va être une discussion qu'on aura, mais bon, ça fait partie des échanges. Des échanges importants, notamment, ben là on parle de vin, comme forvinaire, mais il y a beaucoup d'échanges qui viennent de beaucoup plus loin et qui viennent ici sur Lyon, parce que c'est un point central pour la Gaule à un moment donné, mais qui là on parle plus de la Gaule, on va parler franchement de la fin de l'Empire romain. Quoi.
C'est la mondialisation déjà là.
Complètement. Ouais, ça fait un moment que les gens échangent et naviguent à grande échelle. Hein, voilà, si on reprend dans des temps beaucoup plus reculés, hein, dès le néolithique et même au mésolithique, entre le paléolithique et le néolithique, il y a déjà des échanges sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
129, remonte de 2. 128, encore un petit peu. Stop, parfait.
Comment l'équipe archéologique d'EVA s'est-elle retrouvée sur ce terrain lyonnais ? Lorsque son propriétaire, en l'occurrence Grand Lyon Habitat, a déposé le permis de construire, les services de l'État ont ordonné un diagnostic du terrain. L'INRAP, qui l'a effectué, comme c'est toujours le cas ou presque, en a conclu qu'il fallait fouiller la zone en question. C'est l'aménageur, autrement dit le bâtisseur, quel qu'il soit, qui finance les fouilles et c'est lui qui choisit celui qui va les effectuer. Olivier Croze est l'un des dirigeants de Grand Lyon Habitat.
On est acteur sur le territoire lyonnais. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine de 25 000 logements sur le territoire. On en construit 500 à 600 logements. On intervient sur les quartiers. On est un acteur important de la qualification urbaine, de la requalification urbaine du territoire. C'est important pour nous de pouvoir intégrer ces démarches-là dans nos réalisations, dans nos constructions, notre développement de patrimoine. Dès l'origine, on savait qu'il allait y avoir quelque chose d'intéressant à trouver ici, puisqu'on avait déjà trouvé de l'autre côté des restes de mosaïques romaines de villas sur notre secteur. Voilà.
Ça se passe comment, ce genre d'opération ? Vous êtes aménageur ?
Donc, on est maître d'ouvrage, bailleur public, on construit des logements. Donc comme toute opération immobilière, permis de construire. Dès le permis de construire, on sait qu'on est sur un secteur archéologique, hein, puisque sur Lyon, les secteurs archéologiques sont quand même assez reconnus.
Dans ces cas-là, vous vous dites « aïe, ça va durer longtemps ?»
Non, on se dit « il faut l'intégrer », puisqu'il y a aussi quand même un gros besoin de logement. Et c'est une contrainte, mais une contrainte qui est intégrable dès le départ. On n'est pas pris, je dirais, c'est pas une découverte, on le sait. Donc on l'intègre dans notre montage d'opération. Permis de construire, ça accompagne d'une prescription archéologique, de fouilles archéologiques. Ce cahier des charges est remis à consultation. Et là, les entreprises qui sont en capacité de faire des fouilles archéologiques répondent. Ils nous amènent un devis derrière.
Votre choix va dépendre de quoi alors ?
On a eu 4 offres hein, qui avaient été faites sur ce chantier, assez tenues, parce qu'elles allaient toutes entre 75 000 et 100 000 euros. Donc effectivement, là, notre méthodologie était très importante. Et effectivement, l'offre de l'entreprise qui a amené les fouilles archéologiques ici, avec laquelle nous avons passé un marché, était méthodologiquement celle qui était la plus appuyée, la plus détaillée.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce qu'on vous a proposé ?
La réelle précision sur les volumes de terre, sur les allées et venues que l'on allait pouvoir mettre en œuvre. Il y avait vraiment une connaissance précise de l'ensemble des prestations qui allaient être réalisées. C'est-à-dire qu'on était sorti d'un catalogue de prestations, on avait vraiment une adaptation au terrain et à l'environnement.
Mais de quelle façon, pourquoi ça vous intéresse ce genre de choses ?
Parce que ça me permet de dire que quand j'ai un prix qui est affiché, ce prix-là intègre toutes les prestations nécessaires. Il n'y a pas un alinéa ou un manque qui serait sujet à dire « attention, ce prix, peut-être qu'il ne comprend pas tout ». On avait une offre rassurante et cohérente.
Parce que quand on vous propose un prix... C'est un prix vraiment que vous paierez à la fin ou risque d'y avoir des débordements, ah, vous le savez
de, il risque d'y avoir des débordements, comme dans tout devis. C'est-à-dire que face à une situation incontrôlée ou non prévue, il peut y avoir des demandes d'avenants. Nous, notre but, c'est d'essayer de voir avec l'entreprise, d'avoir l'offre la mieux construite pour être sûr qu'effectivement, je dirais, il y aura le moins d'aléas possible.
Ça veut dire que EVA vous a proposé une meilleure offre que les autres, oui. notamment de l'INRAP.
Oui. Alors, l'INRAP avait une offre qui était, en termes de prix, cohérente aussi et qui était identique à celle d'EVA. Sur le cas présent, leur note méthodologique n'était pas assez précise. L'offre forfaitaire, en fait, n'était pas assez détaillée pour nous et laissait la place à beaucoup de... Non, pas beaucoup,
avec quelques
points d'interrogation. C'est-à-dire qu'effectivement, face à d'autres découvertes, on était amené à re-questionner le prix, ce que EVA avait prévu en base. Donc ça a été plus intéressant pour nous de passer par EVA.
En France, 90% environ des fouilles effectuées sont des fouilles préventives. C'est donc sur elles que travaillent en grande partie les quelques 3000 archéologues que compte l'Hexagone. Le gros bataillon, c'est à l'INRAP qu'on le trouve. Mais tous, lorsqu'ils sont sur le terrain, font le même métier.
Je peux vous demander de vous présenter ?
Alors moi, je suis Sabrina et je suis archéanthropologue.
Ça consiste en quoi ?
Alors moi, je suis là pour faire parler les morts. Je suis là du coup donc pour étudier les squelettes. Donc le sexe, l'âge et les pratiques funéraires. Donc, parce que là, donc, comme vous voyez, on voit bien qu'on a différentes pratiques, on a les sarcophages. Donc là, c'est assez facile, on sait qu'ils sont dans un contenant en dur, mais dans ce type de tombe, par exemple, on a l'impression qu'ils sont en pleine terre, comme ça. Et en fait, pas forcément. Je vais étudier la position de chaque os, donc, et leurs relations les uns avec les autres. Un squelette, s'il est posé à plat, dans un espace vide, les os vont se lâcher, vont se disperser. Là, on peut voir qu'on a un os qui est un peu en équilibre. C'est qu'on avait sans doute une paroi qui maintenait cet os. Et donc, c'est tous ces petits détails qui vont me permettre d'estimer l'espace de décomposition des défunts. Et donc là, on a de la chance, c'est qu'on a vraiment différents types d'inhumations. On a des inhumations sans doute en enveloppe souple, en linceul, des inhumations en coffrage en bois. Pour l'instant, sur le terrain, c'est vraiment les données brutes. Moi, je note tout, un maximum d'informations. Et ensuite, c'est en post-fouille où j'étudierai tout ça, les analyses un peu plus pointues.
Et là, vous faites quoi ? Vous remettez chaque os dans les petits sacs en plastique.
Donc, je note, c'est là-dessus que je note toutes les informations. Je note les os qui sont présents, leur altitude, parce que c'est important aussi de voir si on avait un petit pendage. Ça peut jouer également sur la disposition des os. Et ensuite, je prélève les os. On appelle ça le démontage. Et donc, chaque os, je vais prélever par grande région anatomique et je note sur les sacs ce que c'est. Et voilà, ça facilitera le travail en post-fouille après lavage.
Alors, sur ce chantier en particulier, vous avez passé combien de temps déjà ?
On a une semaine de décapage et ça fait à peu près 5 semaines qu'on fouille les squelettes. Voilà. Et on en a à peu près une quarantaine. C'est sûr, en plus on a sorti des crémations et du coup ça prend un petit peu plus de temps. Il faut tamiser, peser, trier, tout ça. Donc une bonne cinquantaine de jours de post-fouille minimum. Là vraiment on détruit tout, donc il faut qu'on note un maximum d'informations, de photographies pour ensuite pouvoir reconstituer tout ça. On n'a plus rien après, donc c'est la phase, le terrain c'est vraiment très très important, c'est là où il faut être très rigoureux. Vraiment tout noter pour ensuite pouvoir faire ça plus tranquillement en laboratoire, en post-fouille. Puis là, c'est vrai que c'est un site comme ça, c'est super, hein. C'est beau. On est très content. C'est pas si courant hein, d'avoir un beau site comme ça à Lyon en plus, ouais, c'est chouette.
Bon, je vous laisse travailler.
Merci.
Donc là, je suis en train de prélever un poignard qui était dans une des sépultures sur le site en question. Et de façon à... Alors c'est un poignard en fer, visiblement, donc relativement oxydé. Et j'essaye de le prélever avec sa gangue de terre de façon, d'une part, à ce qu'il reste relativement en connexion, sans dégradation, et qu'on puisse tout de suite l'analyser d'abord par des radiographies, ce qui nous permettra, si le métal n'est pas oxydé à cœur par radiographie, la reconnaissance du type de l'objet. Et dans un second temps, c'est un objet qu'on demandera de stabiliser dans un organisme sur la périphérie lyonnaise. Voilà, donc la stabilisation, c'est via des bains, et préalablement, l'objet aura été nettoyé de sa gangue rouillée sur les latéraux. Voilà.
Claudine Robin, je suis archéologue de terrain, responsable adjointe d'opérations et spécialiste du mobilier en verre pour la société EVA. Alors l'archéologie, c'est beaucoup d'institutions bien différentes. Donc on a tout d'abord l'université, on a le CNRS, et puis on a ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Et à l'intérieur de l'archéologie préventive, on peut travailler au sein d'institutions publiques ou d'institutions privées. Moi, j'ai choisi, pour le coup, parce que j'ai eu la chance de travailler pour beaucoup d'institutions différentes pendant mon cursus et juste après mon cursus universitaire. Et le choix d'aller dans le secteur privé s'est fait de lui-même par mon expérience. C'est-à-dire que l'entreprise privée pour laquelle je travaille m'a proposé un poste qui convenait pour moi en fonction de mon aptitude et de mon expérience et de mes compétences.
Ça veut dire que dans des grosses boîtes comme l'INRAP, on ne reconnaît pas forcément les compétences spécifiques que vous avez, par exemple.
Alors,
vous.
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que notre cursus est le même. Qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, on vient des mêmes universités, on a la même formation et surtout la même expérience. C'est-à-dire que les gens qui travaillent à l'INRAP à l'heure actuelle, je parle de la nouvelle génération qui est la mienne, on a de l'expérience dans le public et dans le privé, et après, à terme, on peut aller chez l'un et chez l'autre. Et moi, c'est exactement la même chose. J'ai l'expérience dans le privé et dans le public, et je suis allée dans le privé, mais j'aurais très bien pu aller dans le public.
Oui. Vous avez combien d'années d'études ?
Bac plus 8, doctorat.
Oui.
Voilà.
Vous gagnez bien votre vie ?
Je gagne 1700 euros. Pour 8 ans d'études. Pour travailler dans le froid, et sous le chaud, et sous le soleil. Donc non, c'est pas beaucoup.
La plus importante société privée française d'archéologie, c'est celle dont on vient de faire connaissance à Lyon. EVA a son siège à Limoges, 200 employés, dont 150 archéologues, répartis dans 14 agences régionales. Elle est dans le collimateur de plusieurs syndicats de l'INRAP qui l'accusent de s'en mettre plein les fouilles. Elle accuse l'État d'entraver son développement. Malgré tout, son créateur, Julien Denis, rencontré sur un chantier du centre-ville de Limoges, et plutôt mesuré, en tout cas devant un micro.
Il y a une bataille sourde qui se joue, comme dans d'autres secteurs de la vie économique, entre privé et public. C'est-à-dire, il y a un gros opérateur qui s'appelle INRAP. C'est l'opérateur public, et puis à côté de ça, il y a des sociétés comme la vôtre. Vous êtes l'une des plus importantes, sinon la plus importante. C'est vraiment une bataille publique-privée qui joue en ce moment, d'après vous ?
De mon point de vue, non. Parce que on n'a jamais voulu de bataille contre le public. Je pense que l'INRAP est un opérateur reconnu avec de très très grandes compétences. Il a ses défauts, ses problèmes de fonctionnement, mais ça, voilà, c'est dans l'ordre des choses. Nous, on n'a pas cherché à avoir de bataille contre le public. En revanche, effectivement, il y a eu assez tôt des voix qui se sont élevées, notamment au sein de cet établissement public, pour dire que, pour schématiser, que le privé c'était mal, que si on confiait des fouilles archéologiques à des opérateurs privés, leur seul intérêt serait uniquement de faire du profit, de l'argent.
Oui, en gros, on dit que ce patrimoine, c'est pas compatible avec le marché.
C'est complètement faux, parce que de toute façon, les fouilles archéologiques ont un coût, il faut bien payer les gens qui les réalisent. Donc on est déjà dans une logique économique, que ce soit 100% public ou pas. On ne peut pas nier cette logique économique. D'autre part, si on compare avec les autres secteurs d'activité, par exemple prenons les monuments historiques, qui restent toujours du patrimoine, on n'envisage pas une seule seconde que tous les maçons qui interviennent sur les cathédrales, sur les châteaux, soient tous des fonctionnaires. On a effectivement un très grand contrôle de l'État, et c'est là-dessus qu'il faut se battre essentiellement, un très grand contrôle de l'État. Mais les choses sont toujours déléguées, que ce soit même pour la restauration d'objets mobiliers, les restaurateurs, et on en existe beaucoup aussi en tant que qu'entité privée. Mais d'une manière générale, on a tout un discours qui consiste à dire que le service public doit être assumé par la fonction publique. Et on a un mélange, encore une fois, au niveau de la terminologie, et c'est pas forcément la même chose. Pour reprendre l'exemple des monuments historiques, où on a effectivement un contrôle de l'État, des architectes en chef des monuments historiques, qui sont donneurs d'ordre, en quelque sorte, et on a des entreprises qui vont réaliser les travaux.
Mais on peut dire que vous avez une logique commerciale.
On a une logique économique qui consiste à ce que l'entreprise soit rentable, à ce qu'elle ne, ce qu'on ne mette pas la clé sous la porte ou à ce qu'on ne licencie pas. On ne va pas jeter l'argent par les fenêtres, mais l'objectif, et le seul objectif de l'IA, reste de faire de la recherche archéologique.
Vous gagnez beaucoup d'argent à faire de l'archéologie. Autrement dit, vous gagnez beaucoup d'argent sur le dos du patrimoine.
Non. Non, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur le dos du patrimoine. Quand bien même on en gagnerait, où serait le mal ? Si on arrive à bien gérer les choses, à ne pas jeter l'argent par les fenêtres, à faire des économies, pourquoi est-ce qu'on devrait être critiqué pour ça ? L'INRAP a connu beaucoup de dysfonctionnements, d'argent qui allait n'importe où, des choses qui n'étaient pas contrôlées, des dépenses complètement incroyables, des dysfonctionnements internes, je sais, j'ai travaillé, qui ont généré des surcoûts énormes pour l'établissement public. Je pense que c'est plus critiquable de jeter l'argent par les fenêtres.
Est-ce qu'on ne peut pas vous accuser parfois de... Parce que c'est normal, il faut que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de l'argent, vous êtes une entreprise commerciale, d'avoir une approche scientifique qui est moins fouillée, c'est le cas de le dire, que les gens de l'INRAP ?
Alors, non, je ne pense pas du tout. D'une part, sur l'objectif, c'est toujours de faire la recherche archéologique, donc aller contre son propre but, ça serait un petit peu étonnant. Quand il y a des fouilles, on n'hésite pas à mettre des moyens en plus si ça le nécessite ou si on juge l'intérêt scientifique pertinent. Et par ailleurs, EVA finance sur ses fonds propres des projets de recherche, des compléments de recherche, d'informations hors fouilles préventives. Donc on n'a pas la taille de l'INRAP, hein, donc on ne peut pas faire dans les mêmes volumes. Mais on doit être aujourd'hui pas loin de 1400 jours hommes financés sur les fonds propres pour la recherche archéologique en dehors de tout préventif pour des projets qui ne sont pas dictés par des projets d'aménagement.
Nous sommes à Strasbourg, sur un chantier mené cette fois par l'INRAP. À l'intérieur du vaste hôpital public doit être construit un petit immeuble avec en rez-de-chaussée une résidence médicalisée. Éric Boès est le délégué de l'Institut public pour l'Alsace.
Et donc vous voyez là, on voit le trou, il descend à 3 mètres de profondeur parce que les niveaux antiques de la ville sont très profonds.
D'accord. Et vous avez trouvé ça comment alors ? Ça s'est passé comment ?
Du coup, il y a toujours des sondages préalables.
Oui.
Donc, des sondages et qui ont confirmé la présence de vestiges médiévaux et antiques.
Mais c'est parce qu'il devait y avoir...
On est sur un périmètre qui est par ailleurs connu. C'est-à-dire qu'on connaît l'extension de la ville médiévale et de la ville antique, bien sûr, sur cette portion de Strasbourg.
Oui, oui, oui. Mais ça a été découvert à l'occasion de travaux, c'est
voilà.
Ça
bah, c'est-à-dire qu'il y a un projet d'aménagement qui va empiéter sur cette zone de jardin. Donc un bâtiment qui va être construit. Donc au préalable, les services de l'État demandent une évaluation. Donc il y a des petits sondages qui sont réalisés pour confirmer la présence de vestiges. Donc dès lors qu'il y en a, l'État instruit une demande de fouille financée par l'aménageur.
Mais donc vous aviez de lourds soupçons.
Voilà, du coup, bah oui, les sondages permettent de vérifier la présence de vestiges. Et puis voilà, à ce moment-là, on sait que... Il y a la prolongation des aspects urbanisés de la ville médiévale et antique.
Alors quand vous dites un sondage, c'est pas un sondage d'opinion.
C'est pas la main, hein, c'est une pelle mécanique qui fait sur la largeur d'un godet qui vérifie. Du coup, ça entame les couches archéologiques qu'on voit un petit peu. Hein, donc il y a des différences de couleurs. Et puis dans ce secteur, il y a forcément des sondages qui ont été faits à d'autres niveaux, de l'autre côté du mur, sur la place qui est de l'autre côté. Donc on sait un peu où on se trouve par rapport à ce qu'on connaît de la ville antique, par exemple.
Dans l'hôpital public de Strasbourg, l'aménageur, c'est Didier Franck, PDG de la société qui porte son nom. Et il n'oublie pas que c'est lui qui finance la chose.
Effectivement, c'est un élément de coût supplémentaire pour notre programme immobilier. Alors, du moment où c'est nous qui sommes quand même les acteurs des affouillements et qui risquons de détériorer des trouvailles archéologiques, on trouve ça normal que ça soit effectivement les maîtres d'ouvrage qui prennent en charge ces coûts et ces risques effectivement de destruction de trouvailles archéologiques. Mais c'est encore un élément qui renchérit les coûts des logements, puisque de toute façon, c'est toujours l'acquéreur à la sortie qui paye. Par exemple, ici, nous sommes sur un site qui est pas très grand, puisqu'on a quoi, un terrain qui fait 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, ça nous coûte globalement pas tout à fait 150 000 euros. C'est pas négligeable sur le mètre carré, quoi. Hein ? En dehors déjà des taxes... qu'on paye au départ pour le financement des diagnostics.
Alors le choix, en tout cas pour vous, il s'est opéré comment ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'INRAP ?
Alors il y a un appel d'offres. On compare bien sûr les offres non seulement au niveau des coûts, mais également des délais d'intervention et des compétences des archéologues. Et bon, on estimait que c'était l'INRAP qui était le mieux placé pour nous pour réaliser ces fouilles dans les meilleurs délais et dans les moindres coûts.
Là, en l'occurrence, pour ce site précis, vous avez eu beaucoup d'offres de...
On a consulté trois organismes agréés, dont l'INRAP. Et rapidement, on s'est dirigé vers l'INRAP parce que ça paraissait être, pour le moment donné, les mieux placés.
En fonction de quoi ?
En fonction des charges de travail aussi de chacun. Il y en a qui disent, ben, nous, on peut intervenir dans 6 mois, 8 mois... et ça nous perturbe le démarrage du programme, la commercialisation, etc. Donc il n'y a pas que le côté coût qui nous intéresse, c'est aussi le délai d'intervention et la durée de l'intervention.
Bien sûr, alors en tant qu'aménageur, moins le chantier de fouilles dure, plus ça vous arrange évidemment.
Absolument.
Donc est-ce que vous n'allez pas aller systématiquement vers le chantier qui durera le moins longtemps, qui vous gênera le moins longtemps finalement ?
Ah ben bien entendu. On fait une analyse coût-délai, parce qu'effectivement chaque mois nous coûte aussi de l'argent. Donc c'est peut-être pas forcément toujours le moins 10 ans qui est le mieux placé, c'est pour nous le mieux 10 ans. Donc on fait pas d'analyse entre public-privé, pour nous c'est un coût, un délai, des compétences. Voilà, c'est tout.
Didier Franck a donc fait confiance à l'INRAP, le géant du secteur. 2000 collaborateurs, une grosse maison dont la gestion a d'ailleurs été épinglée en 2013 par un rapport de la Cour des comptes. Elle a été créée en 2002. Son actuel président est Dominique Garcia.
Depuis le début du XXe siècle, on avait des lois en France qui avaient pour but de protéger le patrimoine. C'est-à-dire aux endroits où il y avait des vestiges archéologiques, la construction était interdite. Et puis, on avait ce bien commun qui était partagé par tous, souvent mis en valeur, parfois pas du tout mis en valeur. Mais ces terrains étaient bloquants, en fin de compte. Ensuite, à partir des années 70, quand il y a eu beaucoup d'aménagements en France, des autoroutes, des constructions de TGV, des parkings, de la construction d'habitats dans les centres-villes, on s'est rendu compte que ces secteurs qui étaient sauvegardés par des fins archéologiques pouvaient être fouillés et parfois, malheureusement, étaient détruits lors de travaux où la tension archéologie n'était pas assez rigoureuse. Les archéologues, à ce moment-là, de manière militante, ont mis en place ce qu'on appelle une fouille de sauvetage. C'est-à-dire qu'au dernier moment, pendant que les travaux étaient réalisés, les travaux d'aménagement, les archéologues intervenaient sur le terrain, essayaient de sauver un maximum de vestiges dans un peu de temps.
De manière un peu anarchique. Quoi.
Enfin, de manière organisée. Ce qui était anarchique, c'était l'aménagement qui détruisait les vestiges. En revanche, les archéologues manquaient souvent de temps. On investissait les chantiers de fouilles le week-end, le soir, pour essayer de sauver un maximum de vestiges. Souvent, d'ailleurs, aidés, poussés par des associations locales, par les habitants d'un quartier. On a en tête la fouille du port de Marseille, où se retrouve aujourd'hui un centre commercial dans les années 70 où c'est la population de Marseille et les notables marseillais qui se sont émus de la destruction du port de Marseille alors que Gaston Defer voulait construire ce centre commercial. Et donc la fouille a été stoppée, les travaux ont pris du retard et les archéologues ont pu sauver des vestiges. Il y a eu la même chose à Lyon, il y a eu la même chose à Paris. D'où petit à petit l'idée que l'on pouvait intervenir en archéologie avant les travaux d'aménagement.
Et ce, avec des règles, avec des lois, parce que c'est un peu antinomique. Hein. Vous fouillez, vous prenez votre temps pour sortir des choses qui datent parfois de plusieurs millénaires. Le type qui construit le centre commercial, il n'a pas spécialement envie d'en entendre parler. Quoi.
Alors, c'est une idée reçue. Dans les années 70, dans les années 80, réellement, l'archéologue était l'empêcheur de tourner en rond. C'était celui qui arrêtait les travaux, qui retardait les travaux. Et donc, à l'époque, effectivement, l'aménageur, c'était un surcoût et c'était une perte de temps, voire même des difficultés, voire des travaux qui avaient été remis ou totalement effacés par la suite quand les vestiges archéologiques ont été retrouvés. Grâce à l'archéologie préventive, l'aménageur peut inclure les travaux archéologiques dans son calendrier.
Cette version des aménageurs vertueux, c'est un peu la version idéale où tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Certains syndicats dénoncent, eux, le système tout entier, celui des sociétés privées et des aménageurs qui choisissent. Frédéric Joseph et Olivier Blamangeant sont responsables de la CGT Archéologie.
Allô, bonjour, CGT Culture, j'écoute.
Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler à Frédéric Joseph.
Oui, très bien, vous êtes ?
Vous pensez que c'est pas possible de faire de l'archéologie, enfin de pratiquer des fouilles, avec une logique de marché?
Une logique de concurrence commerciale, non, on pense que c'est pas possible. La qualité d'une opération de fouille archéologique, ça a un coût. Et à un moment donné, quand on joue trop avec ce coût-là, forcément on dégrade la qualité de l'intervention. Donc il faut savoir quand même que l'archéologie préventive, hein, mais sur une ressource, hein, les sites archéologiques ne sont pas renouvelables, que quand on les fouille, on les détruit aussi, hein, c'est le principe. Hein. On déconstruit des stratigraphies, on récupère le matériel, donc l'enregistrement, s'il n'est pas bien fait au moment de la fouille, on ne peut pas le recommencer, hein, contrairement à d'autres sciences où on peut renouveler les expériences indéfiniment. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on a une vraie dérive qui est liée, puisque en fait, les opérateurs se battent pour obtenir les parts de marché, et comme c'est le prix qui est prédominant dans l'attribution des marchés, que ce soit pour les marchés publics, mais aussi par rapport aux accords, aux conventions signées avec les entreprises privées, avec les aménageurs privés, on a une vraie dégradation de ça. Tout le monde est rentré dans cette spirale du moins-disant scientifique. Donc aujourd'hui, il y a une dégradation globale.
Arkéloire, donc, est une entreprise qui a fait faillite l'année dernière, qui a été mise en liquidation l'année dernière, et l'exemple type des dérives dans lesquelles on peut aller. Même si ce n'est pas forcément représentatif de la totalité du système, ça démontre en tout cas qu'on a des problèmes structurels dans le système, puisque ces dérives sont possibles. C'est une société qui a été créée, si mes souvenirs sont bons, en 2009, je crois, donc qui a eu quelques années d'activité, avec des actionnaires qui se sont servis allègrement en dividendes au cours de ces quelques années d'activité. Je crois qu'on est autour de 560 000 euros de dividendes versés sur les trois dernières années d'activité de l'entreprise. C'est un actionnaire. Hein. Et une entreprise qui fait faillite avec un déficit qui est très exactement, à quelques euros près, le montant des dividendes qui ont été versés à l'actionnaire. Évidemment, on a là un vrai problème de privatisation des profits et de collectivisation des pertes, puisque à partir du moment où cette entreprise fait faillite, c'est l'État, et en fait l'INRAP, qui récupère la totalité des données et des rapports à terminer. Hein. Aujourd'hui, on est incapable de faire l'estimation du coût pour la collectivité, de la faillite d'Arkéloire. Mais à partir du moment où l'aménageur choisit au moindre coût sa fouille, il n'a aucun intérêt à choisir celui qui fait le meilleur travail. Ça ne veut pas dire qu'il va choisir quelqu'un qui va faire du mauvais travail, ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt à choisir celui qui va faire le meilleur travail. Il va choisir celui qui va faire l'opération au moindre coût ou dans les délais les plus courts. Hein. C'est les deux critères. Qu'il ait en face de lui des gens qui aient un intérêt à l'archéologie ou qui n'en aient pas, où la seule préoccupation c'est de se faire de l'argent sur le patrimoine collectif, c'est pas son problème. Il peut choisir qui il veut et l'État derrière n'a aucun moyen de contrôler. Et là encore, Arkéloire démontre bien les limites du système, puisque Arkéloire a été agréé par le Conseil national de la recherche archéologique, instance scientifique, a agréé Arkéloire comme un opérateur susceptible de faire des fouilles. Ils ont reçu les autorisations de fouilles pour toutes ces opérations, mais à aucun moment l'État n'a vérifié, par exemple, et ne le fait aujourd'hui pour aucun des opérateurs d'archéologie préventive privée, si ces opérateurs provisionnent les sommes pour la réalisation des travaux d'études. Donc on voit bien toutes les limites de la régulation du système et qu'au cœur du problème, on retrouve le fait qu'on a confié à un aménageur le soin de choisir qui va faire la fouille alors qu'il n'a aucun intérêt à ce que ce soit fait le mieux possible pour la collectivité.
Tu vois, c'est les traces, les marques, le lit est très différent. Tu vois, là, tu as le 51 qui est là, le 52 qui est rose avec plein de gravier dedans. T'as le 53 qui est au-dessus, qui est là. Puis après, t'as le 54 qui commence.
À la CGT, mais pas seulement, on met en avant un point essentiel. L'État ne s'est pas donné les moyens de contrôler sérieusement tout ce qui est réalisé. Notamment le travail de post-fouille, l'étude de ce que l'on a trouvé et les comptes rendus et publications qui doivent en découler. Et ainsi faire le tri entre ceux qui font leur travail et les autres, qu'ils soient publics ou privés. Frédéric Rossi dirige l'entreprise franco-suisse Archéodenum. Il préside aussi le syndicat national des professionnels de l'archéologie. Il a du respect scientifique pour l'INRAP, mais il estime que c'est l'organisme public qui fausse le marché.
Il est évident qu'aujourd'hui, les finances publiques contribuent de manière très importante à l'existence de l'INRAP. Alors, il ne faut pas inverser les rôles quand on entend dire les syndicats de l'INRAP dire que les privés, voire les collectivités, tirent entre guillemets les prix vers le bas. Je vous rappelle tout simplement, c'est que les sociétés privées ne peuvent pas faire des pertes, ne peuvent pas faire de pertes très longtemps, et qu'au bout d'un certain temps, si elles pratiquent des prix qui ne sont pas adaptés à leur travail, elles n'existent plus.
Vous dites même que c'est l'INRAP qui tire les prix vers le bas.
De manière sans doute indirecte, mais très flagrante, l'INRAP peut perdre de l'argent, et il en perd chaque année de plus en plus. Et lui, il est renfloué à chaque fois. Alors, combien de temps cela va-t-il durer? Sans doute, c'est une des raisons de la crise que subit l'INRAP ces jours, ces temps, ces mois. Mais les entreprises privées, elles, ont beaucoup de peine à se maintenir dans un marché dont le leadership est à l'INRAP et qui, même s'il dit le contraire, pratique des prix qui ne sont pas des prix raisonnables.
Ça s'appelle de la concurrence déloyale?
Ah, totalement. Ah, ça, c'est évident. Donc, on ne peut pas accuser l'INRAP et ses agents de faire des prix trop bas, mais de pratiquer des prix non adaptés et subventionnés fait que le système ne fonctionne plus.
Le bateau est en très bon état pour son âge, conservé par le sédiment du Rhône. Il semble énorme.
En France, on consacre beaucoup d'argent à l'archéologie, au patrimoine en général. Au fond, cet affrontement privé-public, n'est-ce pas un problème de riches ? Anne Lerf est la présidente du CNRA, le Comité National de Recherche Archéologique, l'autorité de référence.
Alors l'archéologue voudra toujours évidemment dire qu'on peut faire mieux, on peut faire plus, et c'est certain. Si on regarde nos voisins, parfois très proches, je pense à l'Angleterre, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'ils puissent exister, aujourd'hui en France, on n'est pas les plus mal placés en Europe, et on a justement une archéologie préventive avec une législation qui est justement en cours de renouvellement pour être améliorée, révisée. On n'est pas dans le plus mauvais système européen. Donc oui, on peut faire mieux. Il y a des points très particuliers sur lesquels on peut améliorer. Sur la formation des archéologues, on peut avoir des améliorations. Sur le cadre d'une pratique archéologique, on n'est pas les plus mal passés. L'archéologie programmée aussi en ce moment, parce que justement il y a l'archéologie préventive, peine parfois un petit peu. Donc voilà, c'est globalement, à l'échelle européenne, on a une position en France de leader qu'il faut préserver. Et il y a des domaines dans lesquels on est très très performant. Il faut pousser finalement le développement. Je suis en train de penser à l'archéologie subaquatique et sous-marine. C'est un secteur leader en France, avec un organisme qui est le DRASM, qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine avec une exposition extraordinaire à Marseille, un colloque qui se prépare. Là, on est pionnier.
L'archéologie est essentielle à une société?
Oui, je pense que l'archéologie est essentielle à la société. Elle met en perspective via une matérialité des données, donc quelque chose qui est tangible, quelque chose qui est sensible, notre passé. Et en le mettant en perspective sur le très long terme, puisqu'on remonte vraiment aux premiers hominidés et qu'on peut ancrer dans le temps et dans l'espace, par ces vestiges, notre histoire, notre humanité, dans tous ses aspects, sous toutes ses facettes. Donc oui, l'archéologie est indispensable, c'est un bien précieux. C'est pas une fantaisie, c'est parfois un rêve d'enfant, mais c'est beaucoup plus que ça.
Et pas une dépense inutile.
C'est certainement pas une dépense inutile.
On est là vraiment dans le fondement de notre société. L'analyse, la France est un pays d'accueil.
Dominique Garcia.
Depuis des millénaires, même avant que la France existe, la France a reçu des populations de toutes les parties du globe. Et donc, on n'a pas des racines, mais on a des strates comme ça que l'archéologie permet de livrer et sur lesquelles tout le monde peut s'identifier dans un château, dans une église, dans une villa romaine. Les journées de l'archéologie, les journées du patrimoine sont souvent des moments où l'ensemble de la population se retrouve. On a des communications savantes, on a des visites de chantier, des enfants dans les écoles travaillent sur de l'archéologie et trouvent des éléments sur lesquels ils peuvent discuter, se rejoindre. On fait peuple en ayant en commun une histoire, on fait peuple en ayant un patrimoine commun, en ayant des repères dans un pays qui s'aménage, dans un pays qui évolue, d'un point de vue démographique, d'un point de vue de son espace, d'un point de vue de ses paysages. Dans les événements récents, dans les angoisses des personnes, dans la structuration des communautés, dans les défis qu'on a demain pour vivre ensemble, pour construire ensemble, l'archéologie et l'histoire a du sens. Ce n'est pas le point important, il y a bien des domaines de la recherche scientifique, bien d'autres problèmes qui doivent être réglés, mais aujourd'hui, vivre ensemble, constituer une communauté, appartenir à la même ville, appartenir au même territoire, avoir des mêmes repères, se comprendre, se situer dans les paysages est un élément essentiel auquel participe l'archéologie.
Pour compléter ce reportage, nous sommes avec Martine Faure. Martine Faure, vous êtes députée socialiste de la Gironde. Nous sommes venus vous rencontrer ici dans votre bureau de l'Assemblée nationale parce que vous venez de remettre un rapport sur l'archéologie préventive à la ministre de la Culture. Alors, commençons par le constat. Le reportage que nous venons d'entendre laisse penser qu'il y a urgence à réformer le système des fouilles préventives. Est-ce le cas ? Est-ce que le système qu'une partie du monde nous envie, comme on dit généralement, est-ce que ce système est véritablement en péril aujourd'hui ?
Alors je ne dirais pas qu'il est en péril aujourd'hui, mais il était suffisamment important pour que le Premier ministre demande à la ministre de la Culture une mission qui m'a été confiée, parce qu'il fallait vraiment faire un état des lieux avant l'examen de la loi patrimoine, création tout ce qui est objet mobilier, immobilier, tout ce qui fait les biens communs, dont l'archéologie préventive.
En écoutant le reportage d'Alain Passerelle, on se rend compte qu'il y a un domaine de tension particulier. C'est depuis cette loi de 2003 qui instaure la compétition entre le secteur public et le secteur privé. Est-ce que parmi vos propositions, vous maintenez ce système de compétition ?
Alors, l'intitulé de la mission, c'était « Pour un pôle public de l'archéologie préventive ». C'est vrai que ça m'a posé question, parce qu'un pôle public pouvait penser qu'on allait éliminer les opérateurs privés, puisque l'INRAP, qui est quand même l'institut national, l'institut reconnu, qui avait le monopole à partir de 2001, puis 2003 est arrivé, qui a créé la concurrence, puisque les opérateurs privés ont pu arriver sur ce secteur-là. La loi de 2003 a posé un certain nombre de problèmes, mais de problèmes qui avaient une solution parce que, à cette époque-là, le marché était très important. Il y avait de la place pour tout le monde. Je crois que la situation est devenue beaucoup plus complexe depuis 2010, 2011, 2012, où les marchés se sont raréfiés. Et là, on a senti des tensions entre ce qu'on appellerait les opérateurs publics, que sont bien sûr l'INRAP et les collectivités territoriales, et les opérateurs privés, que sont les entreprises qui agissent sur ce secteur de l'archéologie préventive.
Est-ce que le projet de votre rapport, c'est aussi d'organiser justement cette concurrence dans des termes qui sont plus soutenables que ceux d'aujourd'hui ?
Alors le projet de mon rapport était d'abord d'essayer de comprendre et de pacifier un petit peu les événements qui étaient devenus un peu tendus au mois de décembre. Aujourd'hui, la tension revient, mais le rapport lui-même préconisait quand même un certain nombre de prises en compte, des attentes des uns et des autres, notamment le secteur privé qui n'a pas été éliminé. On pouvait penser que le pôle public allait reprendre vraiment le monopole et allait exclure. Non, enfin, moi, je m'y suis opposée. Et je suis ravie de comprendre que le gouvernement a accepté un certain nombre de mes préconisations, à savoir prendre en compte donc chaque opérateur dans sa spécificité, redonner à l'INRAP son rôle et affirmé par exemple dans un secteur qui n'avait pas été bien traité jusqu'à maintenant, le subaquatique et le sous-marin, que cet opérateur public en garde le monopole, c'est ce que nous allons proposer, parce qu'il en a la compétence scientifique. On va également proposer aux opérateurs privés, publics et autres, collectivités territoriales, de se soumettre à un contrôle scientifique beaucoup plus important, beaucoup plus marqué par l'État. Donc l'État, lui, aura la maîtrise d'ouvrage scientifique. Donc on va amener un certain nombre d'éléments qui vont dire, aujourd'hui, voilà, l'État doit vérifier un certain nombre d'éléments pour que tous les opérateurs soient soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes exigences, et ainsi qu'on essaie de fluidifier ou de gommer cette idée de concurrence déloyale. Une autre mesure qui va être prise en compte, il y aura une commission, comme il en existe pour les activités ferroviaires, pour l'énergie, qui va évaluer les critères de concurrence pour que chaque acteur soit soumis véritablement aux mêmes contraintes.
Merci Martine Faure. Ceux de nos auditeurs qui se passionnent pour l'archéologie en général et pour les fouilles préventives en particulier peuvent lire l'intégralité de votre rapport sur Internet. On trouvera le lien sur le site de notre émission. Archéologie, le grand marché des fouilles, c'était un reportage d'Alain Passerelle, prise de son Pierre Quintard, Gilles Gallinaro et Arthur Jarbeau, mixage Pascal Bénard. Interception est une émission réalisée par Anne Lureau, assistée de Zora Ben Smiley et Stéphane Combe. Je vous souhaite un excellent dimanche.